Eh bien, si vous voulez bien, on peut peut-être commencer cette deuxième table ronde de l'après-midi, avant donc les conclusions du directeur du musée, Sébastien Gaucalp, qui seront, je pense, relativement brèves. Mais ne vous déconnectez pas tout de suite après la table ronde, il y aura une conclusion de la journée. À présent, on va aborder la question de la vaste question des rapports entre racisme et anthropologie. Et pour ça, on a un peu réfléchi avec Mathias et on s'est dit qu'on allait finalement cibler sur un cas tout à fait emblématique en France, qui est le cas du Musée de l'Homme. Et donc pour ça, on convie trois personnes qui vont permettre de naviguer, disons, à travers l'histoire de ce musée. D'abord, Alice Conklin, qui est historienne à l'Ohio State University. Bonjour, Alice.
Bonjour.
André Langanet, généticien à l'Université de Genève, enfin, émérite. Bonjour, André.
Bonjour.
Et Carole Reynaud-Paligaud, historienne des sciences rattachée à l'Université de Bourgogne. Alors, avant de vous donner la parole, je vais faire une petite mise en contexte, disons, qui permettra aussi de placer un peu sur l'échiquier, disons, les trois intervenants. Donc, pour parler du Musée de l'Homme, je vais faire quelques rappels historiques rapides pour situer un petit peu le contexte, puisqu'il s'agit quand même de probablement en France, du premier musée, ou en tout cas du musée qui a le plus insisté sur la question des races et la question du racisme, disons, qui en tout cas ont été dès le départ tout à fait centrales dans le projet même de ce musée. Et donc l'idée, c'est d'interroger peut-être les différentes époques qu'a connues ce musée et éventuellement ses succès et ses échecs. Donc le musée de l'homme a été créé en 1937 officiellement, mais il faut recontextualiser. Donc très rapidement, je rappellerai que, disons qu'un certain nombre d'historiens, comme par exemple Pierre Singer-Avelou ou Jean-François Klein, ont analysé les transformations du discours colonialiste sur la façon de gérer les colonies, disons. Et donc, à partir des années 30, il y a une nouvelle conception disons, de la gestion des colonies parmi ces théoriciens qui a été appelée sous la dénomination d'humanisme colonial par Raoul Girardet, historien aujourd'hui décédé. Et donc, c'est un type de pensée particulière qui proposait, notamment à l'école coloniale ou dans l'Académie des sciences coloniales, de considérer différemment le rapport entre colons et colonisés, de ne plus se fonder sur l'assimilation, comme c'était le cas auparavant, disons, notamment sous la Troisième République, enfin à la fin du XIXe siècle, et de le centrer sur l'idée d'une association. Donc c'est en fait, c'est aussi, on est sous les auspices du musée de l'immigration, donc ce n'est pas innocemment que j'aurais fait ce rappel-là, puisque ce discours-là, on le retrouve typiquement au moment de l'exposition coloniale internationale de 1931, qui a vu la création du musée de l'immigration. Et au cours de cette exposition coloniale, eh bien, c'est le discours de Lyautey, du maréchal Lyautey, qui est centré vraiment sur cette idée de réfutation supposée de la hiérarchie des races, d'une mission de fraternité humaine et d'un respect des cultures et des colonisés. Et Lyautey insistait même sur le respect de l'islam. Voilà. Donc, cette idée d'une culture coloniale nouvelle, eh bien, c'est ça qui a présidé, avec tous ses défauts, hein, évidemment, avec toutes les critiques qu'on peut apporter, c'est ça qui a présidé, c'est ce contexte qui a présidé à la création du Musée de l'Homme en 1937, sous le Front populaire, par Paul Rivet, qui en a été le directeur, qui a été secondé par Georges-Henri Rivière, qui était un esthète amateur de jazz proche des surréalistes, et avec l'appui du ministre de l'Éducation de l'époque, Jean Zay. Voilà, donc ce contexte-là, va nous, c'est ce dont va nous parler Alice Conklin, c'est qu'en fait, eh bien, dans ce contexte-là, le Musée de l'Homme met en avant la question des races. Les races existent, mais ce musée va considérer qu'il faut les apprécier dans, et les trouver belles dans leur diversité. Alors qu'on est effectivement en plein dans, disons, la dernière phase du colonialisme français. Donc, la question qu'on va aborder dans cette table ronde, c'est l'évolution de ce musée, qui était donc un musée qui s'inscrit dans le contexte que je viens de rappeler, et qui en même temps a mis l'antiracisme au cœur de sa démarche. C'était notamment le cas de la publication Race et Racisme, qui était un périodique paru entre 1937 et 1939, qui luttait contre le racisme, en particulier nazi. Donc, comment ce musée a présenté dans ses expositions la question des races? Comment est-ce qu'il a mis en avant son projet supposément ou éventuellement humaniste? Comment ce projet a évolué? Et enfin, comment on est arrivé, je crois que là, c'est André Langanet qui va nous parler de ça, puisque André Langanis s'est occupé de l'exposition Tous parents, tous différents 1990. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quel était l'état du musée quand il est arrivé? Qu'a-t-il proposé lors de cette exposition? Et enfin, troisième phase, c'est 2017, l'exposition dont Carole Reynaud-Paligaud a été co-commissaire, c'est-à-dire Nous et les autres, qui est là une véritable réflexion sur les caractéristiques du racisme et sur les façons de lutter contre. Donc c'est toute cette histoire-là, on pourrait dire, du début jusqu'à aujourd'hui, que nous allons envisager, pardon si j'étais un peu long. Et donc, si vous en êtes d'accord, je propose que Alice Conklin commence peut-être.
Bon, très bien, merci Régis. Je suis très honorée d'être invitée de participer à cette table ronde et de revenir sur des recherches que j'ai entamées il y a bien une quinzaine d'années et qui me passionnent toujours, d'autant plus vu la conjoncture actuelle. Dans mon intervention, je vais aborder la question de la place de la race au Musée de l'Homme lors de son ouverture en 1938. Et parler vraiment de ce qu'on appelait à l'époque la science raciale. Je vous parle de l'OIO, alors je regrette que je n'ai pas pu assister au colloque, à part l'heure qui vient de. Enfin, les derniers intervenants, là je les ai écoutés, c'est vraiment tout à fait passionnant. Alors maintenant on fait un petit pas en arrière. Pour se tourner vers l'année 1938. En fait, c'est en 1938 que le Musée de l'Homme ouvrit ses portes officiellement. Au cours des 10 années précédentes, le musée avait subi une période de rénovation et pouvait se vanter d'être le musée le plus moderne du monde, dédié à l'exposition de la diversité culturelle et raciale de l'humanité. En effet, le principe directeur du musée était que l'intégralité de l'histoire naturelle de l'homme pouvait être présentée d'une manière attrayante et pédagogique à un public composé de spécialistes et de visiteurs ordinaires. Et là, vous voyez une affiche qui date de 1937. C'est bien affiché qu'on peut voir les races au musée en même temps que les arts et métiers des tribus dites indigènes. Conçu par l'anthropologiste, et j'emploie ce mot parce que c'était le mot de l'époque, c'est pas que à l'époque on n'employait pas encore le mot anthropologue, donc l'anthropologiste Paul Rivet, le musée de l'homme dès le départ aspirait cependant à faire enfin, à intervenir, si vous voulez, d'un point de vue politique. À l'époque du racisme scientifique de l'Allemagne nazie, le personnel gauchissant du musée aspirait à incarner une orientation scientifique progressiste et antiraciste sur la question de la race. Alors, a-t-il réussi? De notre point de vue, certes, non. Dans le musée, tout au long des, là, je parle des installations originales, dans les vitrines qui se trouvaient parsemées dans les galeries d'ethnographie, on trouvait des crânes, comme cette, dans cette vitrine ou, quand, ou dans voilà, une vitrine dédiée à l'Indochine, comme s'il y avait une corrélation entre la capacité crânienne, soi-disant typique d'un peuple, et son niveau culturel. Quoi de plus raciste, pourrait-on conclure, dans le contexte de la montée des fascismes? Le musée rénové se targuait également de salles d'anthropologie physique, et là vous voyez l'itinéraire officiel du musée dès le départ, et on entrait par ici, où on était tout de suite dans cette galerie ou salle d'anthropologie. Donc le musée avait un itinéraire spécial avec des galeries consacrées à l'anthropologie et à la préhistoire où on évoquait l'évolution de l'homme ainsi que les principales sous-divisions raciales. Alors là, vous avez une photo de la galerie d'anthropologie avec ses vitrines. J'appellerais cette galerie une galerie des races même. Vous voyez les divisions, les classifications raciales de l'époque. Et puis, à l'intérieur de ces vitrines, vous avez des photos comme celle-ci. Ceci dit, il faut insister sur le fait que la plupart des galeries du musée de l'Homme en 1938 étaient dédiées aux objets culturels des peuples soi-disant archaïques qui célébraient ouvertement l'unité dans la diversité. Alors là, la salle d'Asie, elle est énorme, comme la salle d'Afrique. En fait, il y a aucun crâne dans toutes ces vitrines où les objets sont quand même représentés. Alors, dans le petit quart d'heure ou les 10 minutes qui me restent, je vais essayer de contextualiser les choix muséographiques de Paul Rivier à la lumière non pas de ce que nous savons aujourd'hui, mais de certaines données épistémologiques et institutionnelles qui caractérisaient les années 30 en général. En premier lieu, il faut comprendre que le Musée de l'Homme en 1938 était un musée à vocation scientifique. Le musée était un laboratoire rattaché à la chaire d'anthropologie physique du Muséum d'histoire naturelle et Paul Rivet occupait cette chaire depuis à partir de 1928. Or, l'anthropologie physique en 1928 comprenait plusieurs sous-disciplines qui dataient du 19e siècle, dont une était la science raciale. À son origine, cette science avait pour but de classer et de hiérarchiser les groupes humains en catégories raciales sur la base de mensurations de plus en plus exactes des parties du corps humain et du crâne en particulier. Ceci reflétait une conception essentialiste de la diversité biologique humaine qui réduisait cette diversité à quelques groupes raciaux censés être immuables et inégaux. À cette fin, les premiers raciologues constituaient des séries de crânes qu'ils ont collectionnés à travers le monde, et là vous les voyez à l'intérieur du muséum. J'ai encore une deuxième photo qui vous montre la même. Donc on collectionnait des crânes pour ensuite, en fait c'était des séries de crânes, la plupart venaient de l'Europe au départ, pour ensuite les mesurer dans leur laboratoire. En somme, la science raciale, à ses débuts, au 19e siècle, définissait l'homme dans les termes les plus rigides et objectifiants qui soient et faisait un lien entre la race et le niveau d'intelligence. Or, où en était la science raciale dans les années 30, quand Rivet fut titulaire de la chaire d'anthropologie? Et était-il lui-même un praticien de cette raciologie? Pour simplifier, et là je vais simplifier beaucoup, les anthropologistes prirent conscience vers 1900 que leur hypothèse originelle sur l'existence terra stable au sens biologique du mot était viciée. Les meilleurs d'entre eux développèrent des méthodes quantitatives plus fines que celles de la craniométrie du siècle précédent pour essayer de délimiter les races. Pour donner un exemple, certains commencèrent à analyser les mesures biologiques de manière statistique pour produire, outre des moyennes, des répartitions, des indices et des fréquences dans leur série. Leurs travaux biométriques, comme on les appelait, reposaient sur l'idée que la race était une notion statistique qui ne pouvait être exemplifiée de manière crédible par aucun cas individuel, mais qui existait toutefois en tant que réalité biologique. Cette approche plus rigoureuse, plus scientifique, si vous voulez, donnait à la classification raciale un nouveau souffle de vie au tournant du XXe siècle. Et entre de bonnes mains, la biométrie et la génétique naissante encourageaient les anthropologistes à explorer plus scrupuleusement le rôle de l'environnement dans la diversité biologique humaine sans l'arrière-pensée que la race déterminait l'intelligence. La célèbre étude de Franz Boas, donc l'anthropologiste américain, datant de 1912, prouvant la plasticité et l'instabilité des formes crâniennes des immigrants aux États-Unis, refléta à la perfection l'esprit de cette nouvelle tendance. Or, Rivet était un grand admirateur de Boas. Il le connaissait. Comme Boas, Rivet s'intéressait à la science raciale parmi d'autres questions anthropologiques dans une perspective antiraciste pour l'époque. Aussi paradoxal que cela puisse nous sembler, le fait est que Rivet et Boas, d'un côté, rejetaient l'idée qu'il y avait une hiérarchie des races humaines, mais persistaient à considérer la race comme une composante biologique essentielle de l'identité humaine. Alors, pourquoi ? Pour simplifier encore une fois, la réponse est que la biologie de la diversité humaine n'était pas une question résolue dans les années 30. Si de nombreux généticiens rejetaient les vieilles notions de la pureté et de la stabilité raciale, il leur restait à montrer comment l'hérédité interagissait avec l'environnement afin de donner naissance aux distinctions physiques vitales à la classification raciale. Avec le temps, les biologistes allaient découvrir qu'aucune différence génétique ne définit exclusivement les sous-groupes géographiques de l'espèce humaine, prouvant ainsi l'idée communément acceptée aujourd'hui que les différences raciales sont déterminées socialement et culturellement. Or, dans les années 30, toute cette recherche était encore dans le futur. Face à ces incertitudes, je répète, la plupart des anthropologistes antiracistes de l'entre-deux-guerres persistaient à considérer la race comme une composante biologique essentielle de l'identité humaine que la science avait encore à décrypter. En conséquence, un certain nombre parmi eux continuaient de représenter les différences raciales de manière traditionnelle, ce qui ne les empêcha pas, par ailleurs, d'analyser en même temps les sociétés en termes culturels et historiques, c'est-à-dire des produits de la volonté humaine et de l'histoire. Ici, il est utile de souligner de nouveau que fondée comme étude de la différence au XIXe siècle, l'anthropologie est devenue scientifique en rendant visibles des caractères soi-disant essentiels et immuables des races. Dès le départ, les conservateurs des laboratoires et des collections anthropologiques complétaient leurs collections ostéologiques avec des gravures et plus tard des photographies d'individus présentés, et là vous avez une photo du Musée de l'Homme, présentés comme des instances spécifiques d'archétypes raciaux généralisés dont les différences physiques pouvaient être observées jusque dans leur squelette. La présence au Musée de l'Homme de photographies d'individus soi-disant représentatifs de leur type racial nous signale, il me semble, je vais revenir encore un moment, il me semble qu'après un siècle de présence dans les collections publiques, la typologie raciale était devenue le moyen moderne par excellence de visualiser la différence. En fin de compte, ce régime visuel constituait un écran difficile à contourner pour les anthropologistes conservateurs de musées de l'entre-deux-guerres. Tel Rivet, même quand ces derniers préconisaient que la race était une notion statistique qui ne pouvait être exemplifiée de manière crédible par aucun cas individuel. Alors, il me reste un dernier point à souligner à l'égard de la question de la race au Musée de l'Homme en 1938, et Régis Mérand l'a déjà évoqué. Rivet était d'une génération où on pensait que la politique et la science pouvaient et devaient rester des domaines séparés. En tant que socialiste, Rivet a condamné le régime raciste d'Hitler de la manière la plus directe en devenant un des membres fondateurs du groupe Race et Racisme en 1937. Alors, le bulletin d'information de ce groupe que vous voyez ici avait pour but de publier et d'alerter le public sur les atrocités perpétrées de l'autre côté du Rhin au nom de la science et de promouvoir les efforts politiques pour combattre le racisme. Dans le musée, par contre, Rivet estimait que les faits devaient suffire en eux-mêmes, le postulat de base étant que la meilleure manière de riposter à la mauvaise utilisation de la science par les fascistes était d'exposer le public à ce que la vraie science avait à dire au sujet des différentes races et de la diversité socio-culturelle. En 1938, Paul Rivet ne pouvait pas imaginer que les Français allaient bientôt avoir un exemple de ce que la mauvaise science avait à dire sur la race à deux pas du Musée de l'Homme. Là, je vais vous montrer ce qu'on voyait au Musée de l'Homme en 1938, par exemple une vitrine sur la forme des yeux. Alors, à deux pas du Musée de l'Homme, en 1941, l'exposition de propagande allemande « Le Juif et la France » a ouvert ses portes au palais Berlitz à Paris. Et là, on voyait, comme je vous ai dit, une caricature de la science affreuse. Donc, je ne vais pas laisser cette image sur vos écrans. Alors, pour conclure, revenant à ma question de départ, le Musée de l'Homme était-il un arsenal, comme le formula un autre scientifique antiraciste en 1939, un arsenal où on trouvait des armes impeccables pour combattre les attaques des ennemis de l'humanité? Une réponse définitive n'est pas possible, mais on peut avoir des doutes. Après la guerre, on a enlevé les crânes les crânes qui se trouvaient dans les vitrines dans les galeries d'ethnographie. Mais cela coûte cher de rénover un musée et je crains fort que la salle d'anthropologie avec son galerie des races ait resté intacte encore quelques décennies, bien que les scientifiques d'après-guerre ont définitivement enfin rejeté les anciennes classifications raciales qui y figuraient en faveur d'une nouvelle conception populationniste de la diversité humaine. Je crois que mon collègue André va parler de ce basculement, mais je voulais juste, si j'ai deux minutes, terminer avec une image qui montre encore une ironie de l'histoire. L'Assemblée générale de l'ONU s'est installée au palais de Chaillot en 1948, c'est le moment où on a promulgué la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le parvis du palais de Chaillot. Et comme je vous dis, ici, on a travaillé dans la salle d'anthropologie du Musée de l'Homme pendant cette assemblée. On n'a rien enlevé. Ce n'est pas une déconstruction de cette salle. Ça montre qu'on a travaillé simplement autour des vitrines. Bon, je m'arrête. Merci bien, Régis, de votre patience.
Merci, merci Alice. Alors, je joue rapidement mon rôle de discutant. Donc, merci de cette intervention très, très fouillée, très précise. Je vais juste rajouter deux, trois points. C'est vrai que vous soulignez, je crois bien, l'ambivalence du caractère et de la trajectoire de Paul Rivet, qui est une sorte on pourrait dire, de métonymie du musée lui-même, puisque Paul Rivet, à la fois, était socialiste, SFIO, membre du Front populaire. Il a été le fondateur du CVIA, Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, donc très engagé contre le fascisme, contre le nazisme, notamment à travers la revue dont vous avez vu un extrait. C'est quelqu'un qui courageusement a reproché à Pétain, par une lettre publique, la collaboration, et qui a d'ailleurs dû fuir la France à cause de ça. Il a été révoqué. Mais c'est aussi quelqu'un qui est toujours resté un fervent colonialiste, à un point tel qu'à la fin de sa vie, dans les années 50, eh bien, il va se retrouver à signer l'appel de Jacques Soustelle dans Le Monde pour la défense de l'Algérie française. Donc ça me semble extrêmement emblématique de la complexité eh bien, de la science, entre guillemets, anthropologique de cette époque-là, qui se voulait en effet à la fois antiraciste, mais qui était imprégnée d'un certain nombre de contradictions. Du reste, je soulignerai aussi que cette exposition, Le Juif et la France de 1941, elle est due à Georges Montandon, qui était un naturaliste et anthropologue d'origine suisse, mais qui en réalité a fait une grande partie de sa carrière au Musée de l'Homme également. Donc Montandon vient du Musée de l'Homme. Il s'est radicalisé, on peut dire, est devenu un antisémite forcené à partir de 1938. Il devient même le vulgarisateur des thèses nazies de Hans Günther et des autres fous furieux idéologues de l'anthropologie nazie. Mais il émane aussi. C'est un extrême dans le continuum des possibilités, disons, qu'offrait l'anthropologie raciale. Et donc, très rapidement, je pourrais dire d'autres choses, mais je soulignerai aussi que bon, là, vous nous avez montré des photos, des galeries qui présentaient les classifications raciales. Mais en fait, c'était celles choisies par l'équipe du Musée de l'Homme. Mais il faut quand même préciser que jamais personne n'a réussi à s'entendre sur une définition précise et sur une quantification précise et sur un dénombrement précis des races humaines. Jamais. C'est-à-dire entre le 19e siècle et les années 50, selon les savants ou les scientifiques, ça pouvait aller de 4 grandes races jusqu'à 300. Et en réalité, tout le monde se tapait dessus dès qu'il y avait des colloques, eh bien, les gens, personne ne s'entendait en réalité. Donc, c'est ce qui a amené d'ailleurs, c'est d'ailleurs assez fascinant, c'est qu'on voit que la race était une sorte de croyance qu'on voulait absolument faire calquer à la réalité. Enfin, pourtant, on avait du mal, en fait, à s'entendre sur une définition commune. Et Rivet lui-même n'a jamais abandonné l'idée même de race, tout en reconnaissant qu'il était quasiment impossible de trouver les bons outils pour les mesurer. Donc, on voit bien la complexité, et effectivement, comme l'a souligné également Alice, les années 30, c'est le moment où, par rapport aux vieux outils de mesure raciale qui dataient du 19e siècle, qui existaient toujours, hein, puisque, par exemple, Griol et la mission Dakar-Djibouti ont continué à mesurer les crânes, en fait, hein, l'IRIS l'explique bien. Dans l'Afrique fantôme, mais c'est le moment donc où on continue à mesurer les crânes, mais où il y a des nouvelles techniques comme les caractères sanguins, la biométrie, et d'ailleurs c'est aussi le moment où l'eugénisme prend une ampleur importante. Donc tout ça a fait que c'était un brouhaha et que finalement on a eu jamais personne s'est entendu là-dessus. Voilà, je m'arrête là et peut-être qu'on peut passer donc faire un saut dans le temps et passer aux années 90, époque, enfin 1990, époque où André Langanet fait son exposition.
Je refuse de faire ce saut parce que bien des étapes intermédiaires sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe. D'abord, ce n'est pas en 1990 que je suis arrivé au Musée de l'Homme, mais en 1967. Et en 1967, je fais le jour de mon arrivée une visite de la galerie d'anthropologie que je trouve dans l'état de 1937. Rien n'avait changé depuis, rien, rien, rien. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu pendant le saut, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Pendant cette Deuxième Guerre mondiale, après le départ de Rivet, c'est un certain Valois qui a été directeur du Musée de l'Homme. Extrêmement germanophile, pas du tout nazi, paraît-il, mais en tout cas très germanophile. Il a maintenu le musée dans l'état de 1937 avec les classifications raciales à la Broca que Rivet avait laissé installer. Alors que si Rivet avait lu le livre de Jean Finot, un journaliste, sur le préjugé des races, paru en 1907, il aurait trouvé une réfutation totale de l'anthropologie physique de Broca, des classifications raciales. Il aurait trouvé l'idée que les races s'interpénétraient et ne formaient qu'une seule image qui s'étendait, dont l'ombre s'étendait sur tous les temps et tous les continents. Ça, c'est une citation de 1700 et quelques que je suis en train de vous dire. Eh bien, pour vous dire que le débat entre racistes, biologistes racistes et biologistes non racistes, et là, je parle de science, ceux qui estimaient que la notion de race humaine avait une pertinence et ceux qui ne l'avaient pas, est un débat qui a commencé avec l'arrivée de la notion de race dans la science. Donc, ça a été un débat permanent. Quand je suis arrivé, je visite la salle d'anthropologie, je remonte chez mon patron de l'époque et je lui dis « ça ne va pas du tout, la galerie, il faut changer ça ». J'apprends que moi, généticien, j'avais été recruté pour faire ma thèse et pas pour m'occuper du musée. Ah. J'ai donc fait ma thèse en souffrant beaucoup de ce que l'on voyait dans le musée pendant 5 ans. Parce que moi, j'ai été formé à la génétique des populations, à la biométrie, dont j'avais un certain niveau de maîtrise. Et j'aurais aimé que l'on parle de la diversité génétique sur laquelle les connaissances explosaient. On était en train de découvrir le système HLA, par exemple, qui conditionne les greffes d'organes et qui fait que chaque individu est biochimiquement, génétiquement unique. On était en train de faire des études de génétique des populations sur l'animal d'abord, et puis sur le végétal, et puis sur l'homme ensuite, qui démontraient que dans la plupart des espèces qui avaient des répartitions semblables à celles de l'espèce humaine, la diversité interpopulation était beaucoup moins importante que la diversité intrapopulation. Donc, le problème des classifications raciales était forcément insoluble, puisque l'on avait à l'intérieur des populations des variations très supérieures aux toutes petites différences qui auraient permis de classer. Donc, l'espèce humaine était définitivement inclassable, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'elle n'est pas diversifiée. Bien entendu, tout varie. Les dimensions du corps, les pigmentations corporelles, la physiologie en partie, plein de choses varient. Mais ces variations ne font pas des entités dans lesquelles les caractères considérés sont les mêmes pour tout le monde. Les races idéalisées par les gens qui voulaient absolument faire des classifications, celles-ci n'existaient pas. Donc, comment dire ça? Alors, je fais ma thèse comme on m'avait obligé de le faire. Je signale quand même un point qui était peut-être important, c'est que le directeur du Musée de l'Homme, quand je suis arrivé, directeur du laboratoire d'anthropologie puis du Musée de l'Homme, était un honorable membre de la Fondation pour l'étude des problèmes humains d'Alexis Carrel. Voilà. Et que dans cette fondation, il était réputé expert en biotypologie. Ah, bon.
Robert Gisson, peut-être.
Je ne le nommerai pas, il est mort. Mais toujours est-il que à la suite de ma thèse en 1972, je dis ben, maintenant j'ai fait ma thèse, je veux faire quelque chose dans la galerie d'anthropologie. On me dit vous allez refaire cette salle, nous l'avons faite avec Georges-Henri Rivière et Rivet en 1937, les choses n'ont pas beaucoup changé depuis. Ça, c'est déjà très encourageant comme message. Je pars sur cette base-là. On ajoute, vous avez un crédit de 15 000 francs, c'était des francs, à dépenser dans les 15 jours. Le lendemain, je fais deux choses. Je recrute tous les techniciens valides, techniciens et assistants valides au Musée de l'Homme. Ça fait 3 personnes et demie. Et on retire tous les crânes de toutes les vitrines, on retire tous les panneaux et on retire tous les squelettes qu'on fait remonter dans le magasin d'anthropologie. Et on met fermé pour cause de travaux avec des affiches faites à la main. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ensuite de cela, il fallait trouver de l'argent. Donc, j'ai cherché et j'ai été aidé par un certain nombre de personnes, dont une secrétaire générale du muséum particulièrement compréhensive, Madame Secrétin, qui m'a fourni 60 000 francs. Mon premier devis de peinture était de 70 000. C'est vous dire les conditions dans lesquelles on faisait des expositions à cette époque. Enfin, toujours est-il que de prof en prof, glanant un peu d'argent ici, un peu d'argent là, en 1974, nous étions prêts à inaugurer une nouvelle galerie d'anthropologie, réalisée avec de très faibles moyens, beaucoup de panneaux, beaucoup de choses à plat, et très peu d'objets, très peu de tout ce qui fait le côté brillant des expositions. Et puis, le temps passe. On ne veut pas inaugurer. On ne veut pas inaugurer. Et puis, les choses s'enveniment. J'en étais au stade où un conflit ouvert avec Robert Gessin. Et puis, un jour, j'apprends qu'il a fait démonter la salle d'anthropologie pendant une de mes absences, avant inauguration. Alors, il est parti à la retraite quelques mois plus tard et le professeur intérimaire de la chaire d'anthropologie m'a permis de remettre cette salle modeste, mais avec un discours quand même nettement plus moderne. Et puis, il y a eu toute une série d'intérims, je vais passer sur d'autres histoires sordides pendant ce temps-là, et on arrive à l'époque où, après une très très longue vacance, la chaire d'anthropologie est remise en concours, et contrairement à toute attente, me voilà nommé professeur directeur du laboratoire d'anthropologie devenu biologique du Musée de l'Homme. J'ai donc commencé là à vouloir faire une vraie grande exposition sur la diversité biologique des humains, dont il était parfaitement clair que ce n'était pas une exposition militante. Et je m'oppose à ce qui a été proposé par un certain nombre de personnes avant. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Si vous voulez être crédible en tant que scientifique, il ne faut pas militer. Mes sympathies politiques et mes positions par rapport au racisme sont bien connues. Il n'y a strictement aucune ambiguïté par rapport à la question. J'ai toujours répondu à toutes les demandes d'informations de conférences ou autres, ou d'articles de toutes les organisations antiracistes, quelles qu'elles soient, quand ils me demandaient des informations sur la diversité biologique des humains. Je n'ai jamais appartenu à aucune d'entre elles parce qu'on ne peut pas être à la fois militant contre et expert en. Bon, j'avais choisi. Je pense que pour la cause qui était une cause très chaude, en France, à l'époque de la Nouvelle Droite, quand il y avait, venu toujours des États-Unis, la diffusion massive par des groupements d'extrême droite du livre « The Bell Curve », par exemple, qui ressortait toutes les théories racistes de Jensen avec des actualisations, tout un tas d'autres publications, en particulier, qui ont été distribuées à tous les enseignants en France et en grande partie en Europe, les publications comme l'inégalité de l'homme de Hézinck, ou bien une publication anonyme faite soi-disant par 5 experts qui s'appelait « Race et histoire », tout ceci aux éditions Copernic, financée par le groupe de Malmö, c'est-à-dire les patrons allemands qui avaient été trop nazis pour pouvoir se rassembler en Allemagne et qui allaient se rassembler à Malmö en Suède. Il y avait à cette époque-là une campagne soutenue par le GRES en France, le soi-disant groupe de recherche et études sur la civilisation européenne, dont faisait partie toute une série de célébrités de l'université, de Rémi Chauvin à Pierre-Paul Grasset. Donc, ces gens-là avaient un militantisme extrême et ressortaient toutes les vieilles classifications raciales et cherchaient à imposer l'idée qu'il y avait aussi de la génétique derrière les races humaines dont ils étaient des partisans fervents. Alors, pour lutter contre non pas les militantismes de droite ou d'extrême droite, mais contre la désinformation au sujet de l'état des connaissances sur la diversité humaine, j'ai réuni toute une équipe, à la fois de gens qui avaient travaillé avec moi à l'Université de Genève en génétique des populations humaines et qui étaient parmi les meilleurs experts au monde de ces choses-là. Et j'ai eu la chance de tomber sur Ninian Hubert van Leyenburg, qui a accepté de consacrer ses recherches non pas à la science fondamentale, mais à la muséologie, et qui, pendant la durée de sa thèse, a préparé une exposition pour parler de la diversité humaine d'un point de vue scientifique et traduire le message au niveau des groupes scolaires, au niveau des visiteurs non scientifiques. Et ceci a donné l'exposition « J'arrive où vous vouliez que j'arrive » en 1992, à l'exposition « Tous parents, tous différents ». Je précise que « Tous parents, tous différents » a été la seule exposition qui n'a pas été financée par le ministère de l'Éducation nationale auquel le muséum était rattaché. Ceci parce que sous les socialistes, on avait laissé un sous-marin de l'extrême droite comme responsable des musées de l'Éducation nationale. Je précise que d'autres amitiés parmi des gens reliés au musée ont fait que l'on nous a reproché de ne pas inaugurer l'exposition à la date à laquelle on devait l'inaugurer, sans préciser qu'on nous avait bloqué les crédits au ministère, que 80% des crédits qui devaient permettre de la réaliser n'étaient pas arrivés au muséum. Et il a fallu une intervention d'une personne que je ne nommerai pas, mais qui nous a sauvés, qui était extrêmement proche de François Mitterrand, pour que cet argent arrive par des circuits extrêmement détournés par un ministère qui, normalement, n'aurait pas dû être impliqué. C'est vous dire que les choses ne sont pas toujours extrêmement faciles et que, voilà. Alors, maintenant, le bilan de cette exposition, plus de 500 000 visiteurs au Musée de l'Homme. 4 versions lourdes qui ont circulé partout en France, dans les grandes villes et à travers l'Europe. 600 versions légères d'expositions posters qui ont été diffusées dans les collèges, dans les lycées, dans les centres de culture scientifique et autres, grâce à l'intervention du ministère de la Recherche scientifique, scandalisé par l'attitude du ministère de l'Éducation nationale. Il n'y a pas qu'entre les anthropologues et les généticiens qu'il y a des fois des controverses. 10 traductions dans des langues différentes, une circulation à l'échelle mondiale, et je ne sais pas où on en est du temps. Oui, il ne faut pas que je sois trop long.
Il ne faudrait pas tarder à conclure.
Alors, je ne vais pas tarder à conclure, mais puisque nous avons Alice Conklin, je vais terminer avec quelque chose qu'elle ne connaît peut-être pas, à savoir la circulation américaine de l'exposition « Tous parents, tous différents » traduite en anglais. Elle est arrivée dans une université new-yorkaise à majorité, très large majorité, afro-américaine. Le premier soir, un certain nombre d'associations et de groupes extrêmement militants se sont réunis et ont débattu toute la nuit pour savoir s'ils allaient casser l'exposition ou s'ils allaient accepter d'en discuter. Parce qu'il y a évidemment une contradiction totale entre le discours les races n'existent pas, il n'y a pas de discontinuité entre les races, ce n'est pas la peine de chercher à classer les humains en groupes cohérents, vous n'y arriverez pas, que tenait l'exposition. Et puis, la fierté afro-américaine. Alors, ils ont discuté toute la nuit et ils sont arrivés à la conclusion très satisfaisante qu'ils n'étaient pas d'accord, mais qu'il fallait en discuter. Cela dit, cette exposition n'a pas eu un très grand succès aux États-Unis. Elle n'a pas très bien marché. Mais je pense quand même qu'elle reflétait assez bien la science. Alors, je voudrais quand même, un dernier mot, il ne faut pas faire des sauts comme celui que vous me proposiez de 1937 à 1992 en sautant la guerre mondiale et ce qui s'est passé après. Parce que dans toute l'université française, comme dans toute l'administration, il y a eu des Papons, il y a eu des Valois, il y a eu des gens qui ont été liés à l'occupation et qui ont continué à occuper des fonctions extrêmement importantes et à jouer un jeu extrêmement trouble par rapport à l'état de la science et par rapport à l'état de la politique en France. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Il y a une référence aussi que je voudrais vous donner, c'est la thèse de Fabrice Grognet.
Oui.
Est très importante sur l'histoire du Musée de l'Homme jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et Fabrice Grognet a été CDD au Musée de l'Homme pendant 14 ans. Il a obtenu un poste à la Cité de l'Immigration pendant un an et quelques, un poste permanent, un CDI. On lui a demandé au Musée de l'Homme de revenir pour préparer l'exposition sur le racisme. Il est revenu. On l'a remis en CDD pendant plusieurs années et on l'a vidé comme un malpropre.
Oui.
Travailleur handicapé, il s'est retrouvé au chômage. Je précise pour ceux qui ne sont pas français, qui ne connaissent pas le système français, qu'il est totalement illégal de maintenir des gens en CDD 10 ans ou plus.
Merci. Vous avez bien raison de souligner pour Fabrice Grognet, qui était un ami que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais avec qui j'avais échangé sur ces questions-là, en effet. Et puis moi-même, j'enchaîne les CDD depuis des années, donc je peux témoigner du fait que ces sujets-là sont complètement inflammables, disons, et que ça gêne aux entournures peut-être beaucoup de gens. Je voudrais vous poser, peut-être aussi qu'Alice voudra rebondir, moi je voudrais vous poser une question précise, c'est comment à votre avis expliquer le fait que la croyance en les races, mais dans cette idée un peu de l'anthropologie physique, a perduré aussi longtemps, jusque dans les années 60, chez certains, alors que, à l'inverse, la théorie synthétique de l'évolution et la génétique des populations, ça date des années 30. C'est-à-dire qu'il y a un décalage là, entre les progrès de la génétique et la persistance de vieilles techniques qui ne marchaient pas. Comment expliquer ce décalage-là, selon vous? Est-ce que c'est justement ces gens dont vous parlez dans les ministères ou est-ce que
Non, mais Régis, il y a deux choses. Il y a d'une part l'inertie des idées scientifiques dans le grand public quand il n'y a pas d'information, quand il n'y a pas d'éducation sur le nouvel état de la science, ce qui est le cas. Moi, je me suis battu avec l'inspection des enseignements en biologie pour qu'on introduise des notions sur la diversité biologique des humains dans les programmes scolaires. Ça a été 10 ans de bagarre. Et puis, on a commencé à introduire timidement un chapitre sur le polymorphisme humain. Le polymorphisme, qui sait ce que c'est? Il fallait surtout pas parler de race. C'était un sujet brûlant. Même combat à Genève, où pour les programmes de l'enseignement secondaire, une commission se réunit. Et puis, c'était l'époque à laquelle l'exposition « Tous parents, tous différents » était arrivée à Genève. Et quelqu'un donc propose qu'on mette des notions de biologie des populations humaines dans les programmes. Immédiatement, il est coupé par un politique très influent qui dit « Les races, c'est de la politique, on n'en parle pas à l'école ». Voilà la situation. Alors maintenant, si vous voulez parler de persistance des idées sur les classifications raciales, allez donc voir ce qui se passe dans les départements de recherche les plus avancés des facultés de médecine française. Allez voir ce qui se passe dans les publications des meilleures revues internationales, Nature, Science, etc., où vous n'allez pas arrêter de voir des Caucasiens, des Afro-Américains, des Native Americans, des Hispaniques. C'est quoi les Hispaniques? Les Hispaniques, ça veut dire, en bon américain, ça veut dire métèque venant du sud du Rio Grande. Les Espagnols ne sont pas des Hispaniques. Alors, si on est face à des classifications incohérentes, normalement, une revue scientifique digne de ce nom, recevant un article scientifique original sur une nouvelle variation génétique humaine étudiée, devrait refuser un article où on parle de caucasoïdes ou d'hispaniques. Ça n'a aucun sens.
Ok, merci. Alice, vous voulez peut-être…
Deux petits mots, puis on va passer quand même à Carole, mais je crois que moi, j'ai lu quelque part que l'hypothèse de l'existence des races a été l'erreur la plus sérieuse que la science a fait. Alors, je ne sais pas si déjà je le sens, mais le poids de tout ce que vous dites, c'est que la science, elle a joué un rôle énorme. Là, j'ai beaucoup insisté aussi sur le côté visuel de cette science et que maintenant, on veut comme revenir en arrière et c'est très difficile de le faire parce que il y a le fait qu'il y a tous ces papons qui sont restés quand même en poste après la Grande Guerre, mais il y a toute une génération qui a été élevée quand même dans ce monde. Donc, moi, je trouve. Et puis, aux États-Unis, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais les musées scientifiques, les musées comme à la Villette, sont maintenant des musées qui sont vraiment focalisés sur les enfants. Et c'est les questions scientifiques sont quand même d'une complexité énorme. Et donc, il y a un problème aussi de comment un musée peut représenter les dernières données de la science de manière très responsable. Et il y a eu une exposition récente, enfin, il y a 10 ans, Are We So Different? Est-ce que nous sommes tous si différents? Et on a voulu justement expliquer au grand public que la race n'existe pas, mais que la race existe. Enfin, c'est un message, il me semble, très difficile à passer. Bon, elle n'existe pas, point de vue biologique, mais elle existe en tant qu'identité culturelle ou socioculturelle. Alors,
très brièvement, oui, en tant qu'entité socioculturelle, je suis bien d'accord. Et simplement, préparer une exposition comme Tous parents, tous différents, ça a été en pratique 8 ans de travail, dont une thèse de Nienborg, qui était un travail remarquable. Mais alors maintenant, j'ai eu avec Albert Jacquard, avec qui j'étais ami au début du temps où il faisait de la génétique des populations, et puis j'ai eu plus de difficultés avec lui après quand il s'est mis à faire pratiquement uniquement de la télévision et des livres. Albert Jacquard n'arrêtait pas de dire « les races n'existent pas ». C'est une erreur de communication totale. Le seul discours que vous pouvez avoir vis-à-vis d'un public scolaire ou autre, c'est « les races, ce n'est pas ce que vous croyez.
Oui.
Regardez, pour la transfusion sanguine, ça n'a aucune importance d'être blanc ou noir. L'important, c'est d'être du bon groupe sanguin. Et ça peut être aussi bien un Chinois ou un Breton qui va être le donneur qu'il faut pour un Sénégalais ou pour un Ougandais.
C'est vrai, mais permettez-moi de là, absolument de vous couper, puisque Carole, sinon, ne pourra pas s'exprimer. Mais,
on laisse la parole à Carole.
Oui, excusez-nous.
Carole.
Ben, j'aurais bien laissé parler André encore longtemps, mais je vais quand même essayer de vous présenter donc, l'exposition au musée de l'Homme. Alors, j'aurais en fait aussi... beaucoup de choses à dire sur ce qui a été dit avant, parce que j'ai consacré 3 livres à l'histoire de cette science des races au 19e siècle et au début du 20e siècle. Mais bon, c'est pas le moment d'en parler maintenant. Mais j'ajouterais quand même que par rapport aux situations professionnelles un peu difficiles qui ont été évoquées, que je suis moi-même dans une situation qui est pas très confortable. Voilà. Bon, ceci dit, donc, je vais vous parler de l'exposition « Nous et les autres » présentée donc au Musée de l'Homme en 2017-2018. Et donc une exposition qui continue à circuler en France et à l'étranger et qui circule en fait sous des formes très différentes puisqu'elle peut être accueillie dans des grands musées qui ont de la place et prendre donc un aspect assez semblable à celui qu'elle a pris au Musée de l'Homme. Mais elle est aussi accueillie dans des structures beaucoup plus modestes, donc sous des formes très réduites, dans des centres sociaux, dans des MJC, dans des établissements scolaires. Alors, pourquoi elle peut se métamorphoser comme ça, suivant les lieux ? Eh bien, parce qu'elle c'est en fait une exposition qui s'appuie sur des dispositifs multimédia que je vais vous présenter. Et donc, elle est modulable et on peut l'adapter aux différents lieux. Voilà. Alors, un mot sur, j'utilise le visuel de l'exposition Musée de l'Homme. Alors, on était 2 commissaires scientifiques, Evelyne Heyer et moi-même, mais aussi toute l'équipe du Musée de l'Homme. Toute l'équipe de muséographes, notamment, très, très active et qui a beaucoup participé à la conception de cette exposition, qui était donc sous la responsabilité de Anne Stéphan. Alors, tout l'enjeu, eh bien, c'était de rendre accessible à un large public un propos scientifique, puisqu'on s'est appuyé sur les recherches d'une 60aine de chercheurs. En génétique, bien sûr, puisqu'on était au Musée de l'Homme et que la génétique est incontournable sur cette question-là, mais aussi sur des chercheurs, donc des travaux en sciences humaines et sociales. Voilà. Alors, on a essayé de concevoir avec toute cette équipe des dispositifs qui permettent de rendre accessibles donc, des choses qui sont parfois un peu compliquées. Donc, les supports multimédia, eh bien, il y avait des jeux, des tests, des films, et puis une scénographie donc, que je vais vous présenter. Alors, avant de rentrer dans la scénographie, je voudrais rappeler le propos général de l'exposition, la problématique. En fait, ce que nous disent les sciences sociales sur le racisme, c'est qu'on peut... décliner cette histoire en 2 dimensions, une échelle qui est plutôt propre à l'individu, puisqu'en fait, le racisme, c'est une interaction entre des individus, entre un raciste et une victime. Et là, on a beaucoup de choses à dire, et notamment la psychologie sociale a beaucoup apporté sur cette question-là, sur cette échelle. Mais on ne peut pas comprendre le racisme si on se place pas à une échelle plus large, c'est celle de la société, et parce que les sciences sociales sont à peu près unanimes pour dire que le racisme, c'est une construction sociale. Mais en fait, ce propos de construction sociale, on le retrouve souvent, mais finalement, il est rarement beaucoup explicité. Donc, le pari de l'exposition, c'était d'essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une construction sociale, finalement. Donc, on a essayé de simplifier les choses en posant la question sous la forme « Le racisme prend apparaît dans une société à un moment donné, dans un contexte spécifique, notamment le contexte colonial ou un contexte nationaliste ou néo-nationaliste. Bon, il y a évidemment beaucoup de variantes et le schéma est un peu simplificateur, mais il faut aussi s'intéresser donc au rôle des différents acteurs sociaux, les acteurs politiques, économiques, les médias et la société civile. Voilà un petit peu le message, les grandes lignes, ou en tous les cas, c'est une grille de lecture qu'on a proposée à travers l'exposition. Alors, donc j'en viens au dispositif multimédia que je vais vous présenter rapidement sans vous refaire une visite complète de toute l'exposition. J'en aurai pas le temps. Donc, le visiteur était accueilli dans ce qu'on a appelé le cylindre des catégories, donc une rotonde avec des images, comme vous le voyez, projetées sur les murs. Et l'objectif de ce dispositif était d'expliquer un processus essentiel dans la route qui mène au racisme, c'est celui de la catégorisation. Donc, c'est une question qui est très travaillée, mais finalement qui fait partie de ces notions qui passent pas très bien, qui vont pas très jusqu'à l'espace public. Et donc, on a essayé d'expliciter à travers ce dispositif qui présentait donc des objets très variés et qui montrait que on était assez spontanément... on mobilisait assez spontanément des catégories de différents ordres. Et évidemment, quand on commence à catégoriser l'humain, eh bien, c'est là que ça commence à poser problème. Donc, cette première étape sur la catégorisation nous a paru assez essentielle, avec un message qui était diffusé et qui expliquait notamment que cette catégorisation pouvait paraître assez naturelle, mais que les catégories qu'on utilisait, elles, n'étaient pas du tout naturelles, puisqu'elles étaient le fruit d'une construction de la société, du contexte dans lequel on vivait. Et on prenait un exemple, celui des protestants et des catholiques, qui étaient deux catégories très actives quelques siècles auparavant, mais qui aujourd'hui, finalement, n'avaient plus beaucoup d'actualité. Bien, alors, après ce cylindre des catégories, on était invité à rentrer dans un hall d'aéroport et le visiteur était invité à s'asseoir et à utiliser les dispositifs multimédia qu'on a conçus spécialement pour faire passer ce message scientifique. Alors là, on avait mobilisé donc évidemment les recherches en psychologie sociale pour expliquer que le fait d'être catégorisé avec un stigmate, ça entraînait finalement beaucoup de conséquences sur l'individu et on a donc essayé à travers des jeux de faire comprendre ce que les psychologues sociaux appellent la prophétie autoréalisatrice, comment finalement une personne stigmatisée arrivait à intégrer le stigmate et finalement perdait confiance en elle et réalisait la prophétie qu'on attendait d'elle. Donc une notion essentielle, mais là aussi qui n'est pas très, très connue du grand public. Et on avait pris donc là comme exemple le test qui consiste à faire dessiner à des groupes masculins ou féminins une figure géométrique et qui donc montre que les filles, sous la menace du stigmate, réussissaient moins bien lorsqu'on leur annonçait que c'était un exercice de géométrie et réussissaient très bien lorsqu'on leur annonçait que c'était simplement un dessin à reproduire. Voilà donc quelques exemples. On avait aussi imaginé pour traduire l'étape essentielle, elle aussi, de l'essentialisation, de diffuser un message quand les visiteurs passaient sous les portiques de l'aéroport qui leur attribuait une caractéristique en reprenant donc tous les stéréotypes qui circulent encore aujourd'hui. Voilà, alors, pardon. Et voilà, bon, on avait aussi une autre vue avec une attente qui nous revenait sans cesse quand on a préparé l'exposition avec Evelyne Heyer. Comment peut-on définir telle ou telle chose, la xénophobie, le racisme? Donc, on avait proposé des définitions donc, sur le mur de cette salle de l'aéroport. Puis, on avait une partie ensuite historique qui mobilisait l'histoire, mais là encore, pour répondre à notre problématique, c'est-à-dire pour comprendre comment, dans une société donnée, se construit le racisme, quel est le rôle du contexte, des acteurs sociaux, eh bien, les exemples historiques étaient très particulièrement adaptés à la compréhension de cette grille de lecture qu'on proposait. Donc, rapidement, 4 exemples historiques. Le colonialisme, à travers la colonisation française, qu'on avait mis en scène donc, à la fois à partir de textes, à partir d'objets, donc, et aussi évidemment du matériel qu'on pouvait trouver dans le Musée de l'Homme, puisque Alice a bien rappelé tout la présence de ces nombreux scientifiques et de ces nombreux théoriciens de la science humaine, des sciences humaines et de l'inégalité des races avait été très présent dans les murs du Musée de l'Homme. Et puis, donc là, on voit sur la dernière partie la diffusion, la circulation en fait de cette notion de race et de cette vision hiérarchisante qui l'accompagnait dans les supports de l'époque, les affiches, les expositions coloniales, etc. Et puis, donc, les 3 autres exemples qu'on avait choisis, la ségrégation raciale aux États-Unis, le nazisme et le génocide rwandais, ont été mis en scène par le scénographe qui avait été choisi, l'agence Confino, de manière un peu particulière. Il avait donc imaginé de traiter ces 3 moments dans des cubes pour montrer l'enfermement de ce type de pensée. Et on avait choisi donc comme support visuel de réaliser des petits films en quelques minutes qui, là encore, étaient là pour illustrer la grille de lecture qu'on a proposée, donc un contexte spécifique, des acteurs sociaux, les élites politiques, pour le nazisme notamment, les élites économiques pour l'esclavagisme et sa continuité, c'est-à-dire la ségrégation raciale aux États-Unis, le rôle des médias, mais aussi le rôle de la société civile, puisque il ne s'agissait pas de dire que le racisme, c'est seulement une histoire d'élite, c'est aussi la société civile qui est partie prenante de cette histoire-là et qui peut soit trouver intérêt à ces situations-là, soit être indifférente, soit résister. Et donc, j'en reviens à la scénographie, donc un cube dans lequel on diffusait ces films très, très synthétiques sur ces trois exemples. Donc, le dernier exemple, l'exemple du Rwanda, avec comme symbole au milieu de la pièce la radio des 1000 collines, pour donner un exemple de l'importance des médias dans ces situations de racisme institutionnalisé telles qu'on les a connues dans notre histoire. Voilà, une partie évidemment consacrée à la génétique, qui avait pour but de faire le point, qu'est-ce qu'on peut dire à la fin des années 2010 sur la notion de race. Et on avait donc là donné la parole aux généticiens. Puis une troisième partie sur le racisme dans la société d'aujourd'hui, avec les grandes enquêtes dont on dispose, dont les conclusions ont été projetées sur les murs, enfin inscrites sur les murs, et au milieu donc des histoires de vie. Voilà. et je passe très vite. Évidemment, là, cette conception a été un peu compliquée parce que mobiliser les sciences sociales pour parler du racisme, ça s'avère un peu difficile dans le sens où il n'y a pas toujours consensus sur les analyses. Donc, on a pris des partis pris, hein, on a fait des choix, mais aussi on a voulu donner la parole à des chercheurs directement en essayant de choisir des chercheurs qui représentaient des orientations ou des analyses différentes. Et sous forme d'interviews diffusées, on leur a donné la parole. Et on terminait donc par, évidemment, cette notion essentielle, celle d'égalité. Voilà, alors ce n'est pas tout à fait terminé, puisque je reprojette une scénographie de l'exposition, ce qui mettait en avant des questions qui reviennent souvent quand on, Evelyne et moi, ou moi-même, on parle du racisme. Enfin, on essaye d'expliquer ces mécanismes. Et donc, on a essayé d'y répondre à travers l'exposition, mais évidemment, le format d'une exposition, c'est un format extrêmement réduit. On ne peut dire que finalement que très peu de choses, d'où la nécessité de poursuivre par des ouvrages, par la publication de livres, évidemment le catalogue de l'exposition, mais aussi un petit livre qu'on a écrit avec Evelyne hier, publié donc dans la collection Chants de Flammarion. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai encore du temps ou…
Faudrait peut-être pas trop tarder, mais peut-être vous avez peut-être des choses à nous dire aussi sur l'efficacité éventuelle, sur les formes de diffusion des connaissances qui ont fait suite à l'expo, des choses comme ça.
Oui, alors ce que je peux dire, peut-être aborder aussi, puisque c'était dans votre propos qui nous invitait à parler, évoquer les difficultés, quelles ont été les difficultés? Alors, la difficulté, je viens de le dire, hein, un format très réduit, où quand on a l'habitude d'écrire des livres de quelques centaines de pages, là, il faut en une phrase faire passer l'essentiel. Donc, ça, c'est le premier type de difficulté. Ensuite, évidemment, la difficulté, comme tout travail en équipe, c'est d'arriver à travailler ensemble, tout simplement, avec des acteurs très différents, hein, des scientifiques, mais aussi des muséographes, des scénographes, des producteurs de films, des concepteurs de jeux. Donc, ça a été parfois difficile, hein, parce que le discours scientifique, quand on se l'approprie, on peut le déformer ou on peut l'interpréter à sa manière on rencontrait là quelque chose qui est bien connu chez les sociologues, qui est ce qu'on appelle le sens commun, et ce sens commun, eh bien, il avait tendance à revenir très fréquemment, bousculer le discours scientifique qu'on essayait de faire passer. Et surtout sur des questions de société, en fait, tout le monde a un avis forcément sur le racisme ou sur telle autre question de société. Et cet avis personnel que pouvaient exprimer les scénographes, les muséographes ou tous les acteurs impliqués, allait parfois à l'encontre des études qu'on mobilisait pour essayer de donner une dimension scientifique, puisque là, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais j'aurais dû le dire, évidemment, l'ambition, c'était de comprendre le racisme à l'aide des travaux des chercheurs en sciences sociales. Voilà, et puis… peut-être pour terminer, l'histoire n'est pas finie puisqu'elle circule. Elle est en ce moment à La Réunion, mais elle est aussi dans d'autres structures en France. Elle a été au Canada, au Chili, au Mexique. Donc, elle circule. Mais en même temps, on aimerait aussi, enfin, on a un projet qu'on aimerait mener, c'est celui de la numérisation de l'exposition. pour qu'elle puisse être accessible vraiment à tout public, et notamment on pense au public enseignant qui pourrait l'utiliser aussi plus facilement si on pouvait proposer une forme numérisée. Mais là aussi, ce n'est pas simple, puisqu'il faut y trouver des financements. Et donc, j'en profite pour lancer un appel. Peut-être que parmi les auditeurs, il y aura des personnes intéressées par ce type de projet. Voilà, et je m'arrête là. Merci.
Merci, Carole. Je vais repasser peut-être la parole aux deux intervenants précédents. Juste une remarque avant ça. Ce qui donne la réflexion, c'est que en vous écoutant, on se dit que la question du racisme est une question. J'apprends rien à personne. Mais c'est une question immense. C'est-à-dire que ça a été traité. Il y a une littérature gigantesque entre la sociologie, l'histoire, la biologie. La démographie, etc. Et donc, c'est pas facile de faire des choix. C'est par exemple, là, vous nous montriez votre exposition où vous avez choisi de parler sous l'aspect biologique, sous l'aspect psychologique, puisque on voyait des passages où il était question d'essentialisation, peut-être de bouc émissaire, de choses comme ça. On aurait très bien pu imaginer, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais de traiter la question du racisme aussi sous l'angle de la sociologie, c'est-à-dire distinguer d'abord le racisme, c'est des actes, des préjugés, des idéologies, c'est trois choses différentes. Dans les idéologies, vous avez le racisme à prétention biologique, et vous avez le racisme à prétention culturelle, ce n'est pas la même chose. Dans les mécanismes racistes, vous avez un racisme intentionnel, mais vous avez aussi, évidemment, ça, c'est plus débattu, c'est plus discuté, mais enfin, vous avez aussi un racisme qui est plus structurel ou qui est, qu'on pourrait dire, inconscient, en tout cas, qui est plus inscrit dans les institutions, parfois. Me fait penser qu'effectivement, une des difficultés, c'est comment trier les informations alors qu'on a peu de place dans une exposition. Je laisse peut-être à nouveau la parole à qui veut, André Langanet, Alice Conklin.
Oui, alors peut-être trier des informations, c'est ce qu'on… En fait, on a mobilisé à la fois la psychologie sociale, la sociologie, l'histoire… Principalement, c'était les grandes disciplines qui ont été mobilisées. Et c'est vrai que le parti pris, ça n'a pas été de rentrer dans des discussions assez pointues, mais de donner cette grille de lecture. Parce que finalement, si on veut comprendre le racisme aujourd'hui, ça nous paraît assez éclairant de mobiliser des exemples historiques, mais pas pour s'enfermer dans l'histoire, pour se dire on pose la grille de lecture, c'est un contexte, donc là, dans quel contexte est-on aujourd'hui? Est-ce que c'est le contexte colonialiste et néocolonialisme qui perdure en partie? Si oui, comment? Par quels canaux? Quels sont les héritages? Ça, c'est des questions qu'il faut approfondir. Où est-ce le contexte nationaliste qui, à l'échelle mondiale, néo-nationaliste, connaît une certaine vigueur aujourd'hui. Et puis, regardons le rôle des acteurs sociaux, c'est-à-dire regardons ce que font, que disent nos élites politiques aujourd'hui et l'ambiguïté des discours entre une volonté affichée d'antiracisme et des analyses qui vont dans le sens opposé. Quels sont le rôle des médias? On a des études en sociologie qui montrent bien que, certes, aujourd'hui, les médias, ce n'est pas la radio des mille collines ou ce n'est pas la propagande des nazis, mais en revanche, on a des stéréotypes qui circulent dans les médias, notamment dans les journaux télévisés, mais aussi ailleurs. Donc c'est cette approche-là qu'on a voulu. Dernière étape, sur la société civile, on a vu les exemples de racisme, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, qui montrent bien ces trois attitudes. Je participe et j'en tire profit. J'attends que ça passe, je ne suis pas concernée. Ou je résiste. Donc, c'était aussi une approche qui permettait, qui permet aux citoyens de réfléchir sur son rôle, sur quel rôle moi j'ai aujourd'hui en tant que citoyen. Voilà, c'était aussi comme ça qu'on voulait interpeller le visiteur.
Très bien. Alors, il y a peu de questions du public, mais il y a une question. Est-ce que vous souhaitez continuer à intervenir là-dessus, ou alors est-ce qu'on passe tout de suite à la question d'une personne dans le public?
Oui, moi, j'estime qu'il faut prendre la question du public, mais allez-y, André, si vous avez une question. Moi,
je vais donner une opinion personnelle. Je n'ai pas fait, je n'aurais pas pu faire à l'époque où j'étais au Musée de l'Homme une exposition sur le racisme. Ça n'aurait jamais été autorisé, ni par le ministère, ni par les autorités de l'établissement. Mais si je devais la faire aujourd'hui, après des années de reconversion à ma deuxième passion, qui est la biologie du comportement animal et humain, je prendrais les choses par un tout autre bout. Je prendrais les choses en posant simplement la question: pourquoi peut-on avoir la haine de certains autres, en général, que ces autres soient un groupe humain, que ce soit une culture, que ce soit une race, que ce soit une religion, que ce soit un groupe d'humains aussi mal défini qu'il soit? Comment naît la haine d'un groupe? Et ça, c'est une question qui fait tout intervenir, la biologie, la sociologie, la culture, l'histoire et autres. Mais je crois que c'est la grande question. Quand les gens, quand les associations antiracistes se battent entre elles pour savoir quelle est la priorité des priorités et quel a été le pire des génocides, ça ne m'intéresse pas. L'important est de savoir comment il peut y avoir la définition d'un ennemi par des causes totalement différentes, historiques, biologiques et autres. Comment se fait cette définition et comment en arrive-t-on à haïr un autre que l'on ne connaît pas? Que cet autre soit un humain venu d'ailleurs, que ce soit un type qui pratique une autre religion, que ce soit… Alors, dans certains cas, c'est extrêmement simple. Hein. Quand vous avez une religion fondamentaliste qui vous explique qu'il faut tuer les autres, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand vous avez une compétition économique entre deux populations qui veulent les mêmes ressources et qu'on décide que la manière la plus commode de les accaparer, c'est effectivement de liquider les autres, c'est facile à comprendre. Mais c'est par ce bout-là que j'aurais pris une exposition, une intervention sur le racisme, parce que c'est comme ça que ça se passe.
Oui. Merci André.
Alors, si j'insiste, un dernier mot. Oui. J'avais proposé il y a très longtemps, dans le premier numéro de la revue Le Vent Humain, de faire une catégorie autrisme qui intégrerait toutes les formes justement de définition d'un autre groupe qu'on va haïr. C'est un échec total. Personne n'a repris l'autrisme. Alors, on pourrait chercher différentialisme, on pourrait chercher identitarisme, et pas mal non plus. Mais il faudrait trouver un mot qui soit supra-race, parce que la race n'étant pas pertinente, il ne faut pas définir un comportement humain par rapport à quelque chose qui n'est pas pertinent.
Une remarque tout à fait intéressante, merci. Alors, il nous reste 3-4 minutes, juste pour poser une question que je vais peut-être poser à Alice ou éventuellement à Carole, en tout cas une historienne. C'est sur le cas de Paul Rivet. C'est Martine Cohen, sociologue, qui demande comment comprendre les engagements d'un Paul Rivet qui est à la fois contre la hiérarchie des races, antifasciste, anticollaborationniste, mais en même temps pro-Algérie française. Est-ce qu'on peut simplement résumer ça à la complexité de tout homme, mais est-ce que ça n'est pas un peu court, dit-elle? Est-ce qu'il y a une cohérence à chercher là-dedans? Comment un historien peut aborder cette question qui, j'avoue, n'est pas simple?
Le grand expert, c'est Christine Laurière sur Paul Rivet, qui a fait une très belle biographie, mais il me semble Le cas de Paul Rivet est assez typique, comme vous l'avez dit, Régis, de sa génération d'abord. Il n'est pas le seul membre du Front populaire qui, par la suite, a été pour l'Algérie française. Je crois qu'il était quand même contre la guerre d'Indochine.
Il était aussi nombreux que ça, quand même, à défendre l'Algérie française, y compris dans enfin, voilà, il me semble que c'est quand même, c'est peut-être pas suffisant comme...
Ok. Moi, je connais pas la fin de la carrière, franchement, de Rivet. Je sais pas je l'ai vu surtout, je l'ai étudié surtout en tant que scientifique qui a fait toute sa carrière à partir de la fin du 19e siècle. Donc, les choix politiques, je ne peux pas les expliquer. Les choix scientifiques me semblent peut-être pas plus cohérents, mais compréhensibles vu sa formation, vu aussi. Moi, je n'ai pas beaucoup insisté, mais sur le fait que il a été contraint, je crois aussi, par le muséum de la chaire d'anthropologie physique, il était enthousiaste que le musée de l'homme, une fois qu'il a été agrandi, reprenait toutes les collections ostéologiques du muséum, qui étaient avant, qui ne faisaient pas partie de la collection du musée du Trocadéro, qui était le musée qui a précédé au musée de l'homme. Donc, je crois qu'il y a, là aussi, il y a une explication pourquoi il a choisi de créer une salle d'anthropologie, qu'il y avait un certain poids institutionnel qui n'était pas forcément un choix personnel. Mais oui, je crois que, comme André a beaucoup insisté, la Seconde Guerre mondiale a vraiment fait basculer Rivet, comme beaucoup d'hommes politiques de sa génération, a changé peut-être les idées sur l'avenir de la France aussi, qui explique aussi qu'il est resté un homme colonialiste. Et les historiens, maintenant, ils estiment que la décolonisation, il faut refaire l'histoire de la décolonisation. C'est trop facile de dire qu'à partir début des années 50, on comprenait déjà qu'il fallait décoloniser. Je crois que les Britanniques et les Français, c'était pareil, ils voulaient absolument reconstruire l'Empire. Donc, et ils croyaient toujours à la possibilité d'un empire réformé, d'une union française. Donc, là aussi, c'est un point aveugle. Je ne sais pas si c'est une réponse, mais c'est encore un point aveugle de Paul Rivet qui était assez partagé par des hommes de sa génération, des hommes politiques de sa génération.
Merci.
Moi, j'ajouterais.
Oui, je fais juste un petit commentaire, je vous passe la parole. Je pense qu'effectivement, peut-être qu'une piste intéressante, c'est la piste politique, parce que Rivet était SFIO. Dans les années 30, ceux qui étaient anticolonialistes, c'était le Parti communiste. Donc, l'engagement politique peut expliquer aussi. Alors, la SFIO était, je pense, clivée sur cette question-là, mais il faudrait voir les sous-sections, etc. Mais c'est effectivement l'engagement politique qui peut peut-être aussi expliquer certaines contradictions.
Absolument. Oui, tout à fait. Mais moi, j'ajouterais qu'il y a des raisons propres à l'histoire de cette science des races, c'est-à-dire que ce que j'ai essayé de montrer dans mes livres, c'est qu'elle était, il y avait une très forte hiérarchisation, mais cette hiérarchisation fonctionnait surtout dans la tradition française entre les races de couleur. Donc, la race blanche au-dessus, la race noire en bas et en intermédiaire, la race jaune, disait-on. Mais à l'intérieur de la race blanche, en fait, il n'y a pas eu de hiérarchisation. C'est-à-dire qu'en France, on considérait que les mélanges entre les brachycéphales, les dolichocéphales, la race alpine, la race méditerranéenne et la race nordique étaient plutôt bénéfiques. Ce qui fait que le premier antiracisme qui a pris son essor dans les années 20 et 30, c'est un antiracisme contre les théories raciales nazies qui, elles, hiérarchisaient très fortement entre les races dites blanches, puisque les nordiques étaient supérieurs aux alpins et aux méditerranéens et aux slaves et aux juifs, etc. Donc, c'est cette tradition d'anthropologie, de hiérarchisation, d'absence de hiérarchisation à l'intérieur des races blanches qui s'illustre bien par l'itinéraire de Rivet. Par contre, la prégnance de la hiérarchisation entre les races de couleur et entre la race blanche et la race noire, eh bien, elle est restée vivace encore très largement durant l'entre-deux-guerres. Et River en est le plus parfait représentant. Il est contre les théories raciales nazies, il est contre l'antisémitisme, mais il pense que les populations africaines ne sont pas tout à fait, égales. Alors, c'est pas lui qui est le représentant d'un racisme très, très
prononcé. Pour conclure, hein, par contre.
Il est encore porteur de cette hiérarchisation entre les races qui ne disparaîtra que peu à peu dans le contexte de la décolonisation, mais il est d'une autre époque.
Merci Carole, merci à tous trois. Alors moi je ne suis pas tout à fait convaincu sur l'argument, c'est parce que y compris dans la race blanche, les Alpins étaient complètement méprisés par exemple par plusieurs générations d'anthropologues. Mais hélas, on n'a pas le temps de continuer la discussion. Merci beaucoup d'être tous trois intervenus, c'était je crois tout à fait intéressant, j'espère que ça a intéressé aussi le public.